Bien, bonsoir à tous et à chacun. Nous, Serge Receveur au microphone, nous recevons ce soir dans les salons Albert Mola le professeur Jean-Jacques Becker qui nous entretiendra de l'encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918 publiée chez Bayard et dont il a assuré la direction avec Stéphane Audouin-Rouzeau. Jean-Jacques Becker, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Avant de débuter, je ne saurais oublier de saluer tous nos auditeurs qui nous suivent au travers du site mola.com. Jean-Jacques Becker, vous êtes professeur émérite de l'Université Paris-10-Nanterre et président d'honneur du Comité international de recherche de l'historial de la Grande Guerre. Vos travaux sont consacrés essentiellement à l'opinion publique, à la vie politique française du XXe siècle, au mouvement ouvrier français et la Grande Guerre. Mesdames et messieurs, je me dois de vous dire que cet ouvrage est, à mon sens, une réalisation monumentale et remarquable. Il répond parfaitement à la définition du mot encyclopédie, ouvrage qui relève de la connaissance universelle. Il renferme une centaine de contributions livrés par des chercheurs et historiens français, italiens, allemands, suisses, irlandais, britanniques, américains. Vous trouverez également dans ce livre une importante bibliographie, ce qui est souvent rare dans les ouvrages historiques, un tableau chronologique débutant en 1882, prenant fin en 1920, des cartes et des documents iconographiques. Chaque contribution a sa propre bibliographie et des renvois traitant d'un sujet approchant, ce qui permet de suivre à la trace certaines contributions et d'avoir un suivi de lecture. Monsieur le professeur, dans votre introduction, vous posez la question « Y aurait-il un mystère ?» de la Première Guerre mondiale. Je souhaiterais que nous nous interrogions sur ce mystère. De plus, j'aimerais vous suivre en suivant votre souhait, à savoir poser un regard critique allant des regards nouveaux aux analyses classiques sur cette guerre européenne aux prolongements mondiaux. Eh bien, écoutez, nous allons débuter avec cela.
Oui, le mystère de la Grande Guerre, c'est tout simplement qu'elle ait eu lieu. Certes, il y avait dans l'Europe, d'avant 1914, depuis la fin du XIXe siècle, il y avait un certain nombre de raisons de tension. Mais ces tensions n'avaient jamais débouché sur un conflit européen. Parmi ces raisons de tension, il faut mettre en valeur les rivalités coloniales. Par exemple, entre la France et l'Allemagne, il y avait le problème du Maroc qui avait provoqué un certain nombre de crises. Mais enfin, finalement, cela n'avait jamais débouché sur la guerre. Alors pourquoi cela a-t-il débouché sur la guerre dans cet été 1914 ? Eh bien, pour un incident imprévu et dont le résultat avait été encore plus imprévu. Un certain nombre de jeunes nationalistes serbes s'étaient mis en tête de commettre un attentat contre l'archiduc François Ferdinand, qui était l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et qui était un héritier pour très bientôt, car l'empereur d'Autriche, François Joseph, avait nettement plus de 80 ans, et donc, surtout compte tenu des normes de l'époque, il devait bientôt disparaître. Donc ces jeunes nationalistes voulaient frapper l'empire des Habsbourg, et ils voulaient d'autant plus le frapper que la province où les choses se déroulaient avait été annexée de façon récente, relativement récente, par l'Autriche. C'est un projet d'attentat contre les grands de ce monde. À l'époque, du moins, c'est quelque chose d'assez fréquent. En revanche, ce qui est le plus rare, c'est que ces projets réussissent. Et dans le cas, dans ce cas particulier, qu'il ait réussi, tiens, si j'ose dire, du miracle.
Relève du hasard.
Pardon ?
Il relève du hasard.
Plus que du hasard.
Le chauffeur qui ne sait pas faire une marche arrière.
Vous avez raison.
C'est effrayant.
Oui. Écoutez. C'est pas qu'il ne savait pas exactement faire une marche arrière, mais lors de la visite de François Ferdinand, les conjurés s'étaient répartis le long d'un chemin qu'ils devaient prendre. Et puis, aucun n'a tiré. Pourquoi ? « Ah, oh ben, ils ont dit, on ne l'a pas reconnu. » D'autres ont dit, il y avait une femme à côté de lui, c'était sa femme, on n'allait pas tirer sur une femme, etc., etc. Disons que ces très jeunes gens, au dernier moment, n'ont pas été capables de faire ce pourquoi ils s'étaient préparés. Mais, voilà que la voiture de l'archiduc prend une route, une rue, et le général Potiorek, qui était le gouverneur de la province et qui recevait l'archiduc et qui se trouvait à côté du chauffeur, lui dit « Mais non, ce n'est pas par là hein !» Alors, le chauffeur, c'est assez extraordinaire, le chauffeur ne connaissait pas la route, mais enfin c'est comme ça. Hein, et le chauffeur arrête sa voiture pour reculer et reprendre la bonne route. Or, le malheureux chauffeur, si je puis ainsi m'exprimer, s'arrête juste devant le chef des conjurés, c'est-à-dire Principe. Principe, qui a son revolver dans sa poche, et juste là, à quelques mètres de la cible, eh bien, il sort son revolver, il tire, il abat à la fois l'archiduc et sa femme, la duchesse de Hohenberg, qui n'avait pas le titre d'archiduchesse parce qu'elle appartenait pas à une famille royale. Et les deux sont grièvement blessés, enfin pratiquement blessés à mort. Sans l'erreur de parcours du chauffeur, l'attentat n'aurait pas eu lieu, l'attentat aurait échoué. Or, la mort de l'archiduc a eu des conséquences de toutes sortes. Premièrement, c'est difficile pour le gouvernement autrichien, ou encore l'empereur. L'empereur n'aimait pas beaucoup son neveu. Hein, et puis l'empereur n'était pas un homme d'émotion. C'était fâcheux que son neveu ait été tué, mais enfin, ce n'était pas une affaire considérable. En revanche, pour l'État austro-hongrois, comment accepter que l'héritier l'héritier soit ainsi
tué. Révolverisé,
oui. Oui, oui, absolument. Et en plus, on ne met pas assez en évidence le fait que sa femme avait été tuée en même temps. Cela a provoqué une émotion considérable. Et ça a provoqué une émotion d'autant plus forte que, bon, qu'un roi, qu'un prince soit assassiné, victime d'un attentat, pourquoi pas. Mais la femme, en plus, là, c'était beaucoup. Et en plus, il y avait un point extrêmement important. C'est que l'archiduc François Ferdinand était un ami personnel de l'empereur d'Allemagne, Guillaume II. Et à plusieurs reprises, lorsque l'Autriche-Hongrie avait voulu intervenir dans les Balkans, son allié allemand lui a dit non. Et pour les Autrichiens, pas question de bouger si les Allemands n'en donnaient pas l'autorisation. Or, quand un envoyé du gouvernement austro-hongrois est venu en Allemagne pour demander au fond l'autorisation à l'empereur Guillaume II ou à son gouvernement, parce qu'il ne faut pas exagérer l'importance de l'empereur, mais d'intervenir, le fait que c'était un ami personnel qui avait été victime de cet attentat n'a pas été une chose négligeable. Et ça n'a pas été une chose négligeable que dans l'émotion que cela a provoqué, que le gouvernement allemand laisse le gouvernement autrichien intervenir en pensant que le reste de l'Europe n'interviendrait pas, laisserait faire, mais bon, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que le fait que, je ne sais pas s'il ne s'est pas reculé, mais il n'a pas été, le chauffeur n'a en tout cas pas été assez vite reculé, et de cet incident microscopique, la guerre est sortie. Alors me direz-vous, mais la guerre aurait eu lieu n'importe comment à propos de, d'un incident quelconque. Oui, mais personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire qu'il y aurait eu un autre incident qui aurait provoqué la guerre. Mon maître en histoire était le professeur Pierre Redouvin, le grand spécialiste de la guerre, et en plus, il était mutilé, il lui manquait un bras qu'il avait perdu sur le chemin des dames, qui avait beaucoup réfléchi sur ces problèmes, et il m'a souvent dit, une guerre évitée, cela peut être une guerre qui n'aura pas lieu. De sorte que, si la guerre n'avait pas éclaté en 1914, je ne peux pas vous dire qu'elle n'aurait pas éclaté en 15, 16, 17, 18 pour une autre raison, mais au fond, personne ne peut le dire. Et ce que je peux dire tout de même, c'est que la situation internationale était meilleure en 14 qu'elle n'avait été les années précédentes et qu'on peut très, très bien dire que finalement, cette guerre n'aurait pas lieu. Je cite toujours un exemple qui est beaucoup plus proche de nous, celui des menaces de guerre atomique à la fin des années 40 et 50, pour ceux, et début des années 50, pour ceux qui étaient déjà là à ce moment-là, ils savent combien la situation était tendue. Eh bien, cette guerre n'a pas eu lieu. Et cela fait maintenant plus de 50 ans qu'il n'y a pas eu de guerre de ce type. Alors, je sais bien que une guerre atomique, c'est pas tout à fait la même chose qu'une guerre habituelle, si je puis dire. Alors, pourquoi ne pas penser que sans la réussite de c'est miraculeuse, enfin miraculeuse, vous comprenez dans le, quel sens j'emploie ce terme, sans la réussite de cet attentat, la guerre n'aurait pas eu lieu à ce moment. Là, c'est une chose assurée et n'aurait peut-être pas eu lieu du tout.
Mais par contre, dans une de vos contributions, vous parlez là de, du tonneau de poudre des Balkans. Parce que ça, c'est vraiment quand même... là, il faut que vous nous expliquiez un peu. Parce que déjà, c'est compliqué. Essayez de nous la faire simple. Mais c'est quand même un tonneau, c'est une poudrière.
Oui, c'est ce qu'on a dit, que c'était un tonneau de poudre. C'est un peu vrai par certains côtés, mais enfin, bon. Les années précédentes...
Et ça l'est resté.
Oui, ça l'est resté. Enfin, on ne fait pas la guerre tous les jours pour cela.
Pour hein.
En 1912 et 1913, les Balkans avaient été agités par ce que l'on a appelé les guerres balkaniques. Une première guerre balkanique qui avait vu le succès en particulier de la Bulgarie et une seconde guerre balkanique où un certain nombre d'autres États balkaniques s'étaient coalisés pour abattre la Bulgarie. Bon, c'était des événements c'était des événements graves, mais ça n'avait pas débouché sur autre chose. Alors, mais il est évident que les peuples des Balkans étaient prêts à en découdre, mais tant qu'ils restaient entre eux, ça pouvait être d'horribles massacres, mais ça ne risquait pas de déboucher sur une guerre européenne. En revanche, si de grands États européens s'en mêlaient, alors là, le pire était à craindre. Et au fond, c'est ce qui s'est passé en 1914. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une chose extrêmement simple. Lorsque le gouvernement austro-hongrois a décidé d'attaquer la Serbie, puisque les assassins de l'archiduc étaient de jeunes Serbes.
La main noire.
Alors, c'est un peu compliqué. Parce qu'ils étaient serbes, sans aucun doute, pas tous d'ailleurs, mais enfin, ils étaient serbes. Mais ils n'étaient pas sujets serbes. Hein. Ils étaient originaires de cette province dont je parlais tout à l'heure, la Bosnie-Herzégovine, qui avait été annexée par l'Autriche-Hongrie. Alors, quels étaient leurs liens avec la Serbie ? Ben leurs liens, c'est qu'ils avaient été faire leurs études. Hein, ils avaient été faire leurs études en Serbie. Ils avaient été faire leurs études en Serbie et ils avaient eu certains contacts avec des sociétés plus ou moins secrètes comme la Main Noire. On a dit que c'était la Main Noire qui avait, en quelque sorte, qui les avait aidés qui avait suscité l'attentat. C'est pas si simple. La Main Noire, ou tout au moins, ils ont trouvé en Serbie, et ils ont trouvé un certain nombre d'aides. Et en particulier, ils ont trouvé les armes en Serbie. Et pour le reste, les gardes-frontières serbes, les ont laissés passer sans trop de problèmes. Ils n'ont pas été trop regardés, ceux qu'ils transportaient avec eux. Et puis à partir de là, ils ont cheminé longuement, sans prendre trop de précautions. Parce que ces jeunes gens, en même temps, étaient très bavards. Et certains n'hésitaient pas à dire plus ou moins ce qu'ils allaient faire. Enfin, ils ont gagné progressivement le lieu de l'attentat, c'est-à-dire Sarajevo. Quelle était la responsabilité de la Serbie dans cette affaire ? Bah, pratiquement aucune. Le gouvernement serbe n'était pas au courant. Mais il s'est trouvé que un attentat était commis par des jeunes gens originaires de Bosnie-Herzégovine, mais qui venaient de Serbie. Pour le gouvernement autrichien, qui avait eu pas mal de problèmes avec la Serbie, bah, c'était le moment de mettre la Serbie au pas. Hein. Elle en avait assez, la grande Autriche-Hongrie, qui n'était pas si grande que ça, enfin elle était grande comme taille, hein, des Serbes qui la piquaient chaque fois qu'ils pouvaient en avoir l'occasion. Il fallait donc régler son compte à la Serbie. Et c'est en cela que les Autrichiens ont demandé aux Allemands s'ils pouvaient y aller. Et c'est là où l'émotion provoquée par la mort de l'archiduc a fait que les Allemands, qui plusieurs fois, je l'ai déjà dit, n'avaient pas autorisé des actions autrichiennes, là, les ont autorisées. Seulement, la Serbie avait en quelque sorte des amis dans le monde. Et ces amis, bon, ce n'était pas la France. On aimait bien les Serbes, on leur avait même acheté des cochons, hein, qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Mais enfin, bon. Mais en revanche, il y avait la Russie. La Russie, orthodoxe comme les Serbes, slave comme les Serbes, et le gouvernement russe a pensé qu'il ne pouvait pas laisser écraser la petite Serbie. Et alors, évidemment, la Russie va donc intervenir pour soutenir la Serbie. Mais la Russie avait une alliée. Cette alliée, c'était la France. Qu'est-ce qu'a à faire la France dans ces affaires ? Rien. Mais est-ce que le gouvernement russe aurait dû agir sans avoir, consulté son allié? Ben, évidemment. Seulement, le gouvernement russe n'a pas cru nécessaire de consulter vraiment son allié français. Et alors, à partir du moment où la Russie entrait en ligne et menaçait l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne n'allait pas laisser tomber son allié austro-hongrois. Mais l'Allemagne avait des plans de guerre si jamais une guerre éclatait. Ce plan était du nom de son auteur, le général von Schlieffen. Ce plan était simple. Il y avait en France, en Europe, deux alliés. Laissons de côté pour le moment le Royaume-Uni, parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, appartenait à ce qu'on appelait la triple entente, France, Royaume-Uni, Russie, mais l'Angleterre ne s'alliait avec personne. Et l'Angleterre n'était alliée ni avec la France, ni avec la Russie. Donc l'Angleterre, si un cas se produisait, elle verrait ce qu'elle avait à faire, mais elle n'était pas obligée, en quelque sorte, d'intervenir. Nous y reviendrons dans un instant. Et la France, qu'est-ce qu'elle a à faire dans cette affaire? Ben rien. Elle n'a pas de raison particulière d'intervenir en Serbie, même pour acheter des cochons, ça ne justifiait pas de faire la guerre. Et la France n'avait aucune intention de faire la guerre. Seulement, le plan allemand était simple, comme je le disais. 1. Attaquer la France, alliée de la Russie, et s'en débarrasser en un mois. En gros, enfin, s'il y avait une semaine de plus, on n'était même pas à une semaine près. Et puis, une fois l'armée française vaincue, la France vaincue, l'armée allemande, toutes forces réunies, pourrait se retourner contre le colosse russe. C'est une des choses les plus étonnantes de cette affaire. C'est que tant le commandement allemand que l'opinion publique allemande étaient très inquiètes devant le risque d'une menace russe. Ils croyaient en la force de la Russie. Ils croyaient que les masses sauvages de la Russie allaient écraser la pauvre Allemagne. S'ils s'étaient doutés de la médiocrité militaire de la Russie, tout cela ne serait probablement pas arrivé. Mais enfin, alors, il n'y avait pas besoin que l'Allemagne réunisse toutes ses forces pour combattre contre la Russie. Mais il n'empêche que c'était l'esprit du plan Schlieffen. Et c'est comme ça que la guerre générale a commencé à propos ou dans la suite d'un attentat qui aurait dû manquer et qui avait réussi. Alors, j'aime bien essayer de comprendre, mais pourquoi l'Allemagne a-t-elle appliqué le plan Schlieffen? Pourquoi l'Allemagne a-t-elle attaqué la France, qui n'était pour rien dans cette affaire? Et vous savez qui c'est qui a posé la question? Eh bien, c'est l'empereur Guillaume II. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, a posé la question à son état-major au moment où ils allaient attaquer la France. Mais pourquoi vous attaquez la France? Elle est pour rien dans cette affaire. Et l'état-major lui a répondu, c'est le plan. Hein, le plan a prévu que l'on fasse comme cela. Et effectivement, Guillaume II, ce qui est intéressant, parce que vu de France, on aurait cru que l'empereur Guillaume II dirigeait totalement l'Allemagne, mais pas tellement. Au moment d'un événement décisif, on lui dit « Ah ben non, on ne peut pas faire autrement. Hein? » Et l'empereur a dit « Bon. Hein? » Et
ils avaient défini le plan tournant.
Ah ben oui.
Donc ce plan, et on se tenait à ça.
Alors, ce plan était faux au moins de deux façons. Il était faux parce qu'il croyait que l'armée russe était extrêmement puissante, ce qui n'était pas le cas. Et deuxièmement, il croyait que la France, n'importe comment, interviendrait. Non, la France ne serait pas intervenue. Alors les Anglais, ils n'avaient rien à voir dans tout cela non plus. Seulement, le gouvernement britannique a considéré qu'il était insupportable que les Allemands passent par la Belgique pour attaquer la France. Et le gouvernement britannique a beaucoup hésité avant de s'engager. Alors, il y a un épisode presque ridicule, le ministre français des Affaires étrangères téléphonait qui faisait le téléphone, ce qui était déjà incroyable, téléphonait à Londres pour savoir ce qu'allaient faire les Anglais. Or, d'une façon générale, même quand on téléphonait, il se trouve que le téléphone, que le ministre était de petite taille, et le téléphone était installé très haut. S'il n'avait pas d'importance en ordinaire, un domestique venait prendre le téléphone, etc. Et là, dans la précipitation, évidemment, le ministre essayait d'atteindre le téléphone, ce qui était assez difficile. Mais tout cela pour dire quoi ? Que du côté du gouvernement français, on était angoissé à l'idée que les Britanniques n'interviennent pas. Et finalement, après avoir beaucoup hésité, c'est l'entrée des Allemands en Belgique qui a provoqué l'intervention des Britanniques. Donc, une fois de plus, on le voit à travers ces exemples, il n'y a rien eu d'automatique. À chaque instant, le conflit aurait pu être arrêté. La question est très simple. Pourquoi le conflit n'a pas été arrêté? Pourquoi cette crise a été jusqu'à la guerre? Eh bien, il n'y a pratiquement pas de réponse à ce type de question. Une des questions que... une des réponses que je pourrais donner, c'est qu'il n'y a pas eu d'homme d'État d'une taille suffisante pour dire arrêtons. Ça s'était déjà produit. En 1908, il y avait une crise considérable. La France était alors gouvernée par Clémenceau, et Clémenceau avait dit mais arrêtons. Et on n'avait pas été plus loin. En 1914, il ne s'est trouvé personne, ni en Angleterre, ni en France, ni en Allemagne, ni en Russie, mais pour dire arrêtons. Et par une sorte de mouvement global, général, l'Europe s'est trouvée prise dans une guerre d'une ampleur imprévisible.
Ce qui m'a frappé quand même, ce sont les prévisions des états-majors et les plans qui ont été absolument désastreux, qui se sont tous effondrés, vous le démontrez très bien, les uns après les autres. Et vous le soulignez, vous dites, ils se sont tous trompés. Tous. Vous le soulignez très exactement. Comment peut-on arriver à ça?
Oui, c'est... Dans les états-majors, il y a eu deux types d'erreurs. Quelle serait d'abord la taille de la guerre? Grave erreur du côté français, beaucoup moins du côté allemand. L'erreur du côté français est symbolisée par le passage en 1913 du service de 2 ans au service de 3 ans. C'était une chose absurde. Parce que en cas de guerre, on allait procéder à la mobilisation générale. Le seul avantage du service de 3 ans, il faut tout de même qu'il ait eu un petit avantage, c'est que une classe de plus avait été préparée. Sans cela, pour le reste, le fait que on fasse 2 ou 3 ans de service, eh bien, ça n'augmenterait pas d'un homme l'armée en cas de mobilisation générale. Donc au fond, du côté du commandement français, on ne croyait pas beaucoup aux réservistes. On croyait essentiellement à l'armée qui faisait son service militaire. Beaucoup moins du côté allemand. Les Allemands croyaient beaucoup plus à leurs réserves. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été une des erreurs supplémentaires du commandement français, c'est qu'il avait mal calculé de quelle force disposerait l'armée allemande, pour une raison très simple, qu'il avait cru que le commandement allemand, comme le commandement français, ne croirait pas dans l'immédiat à ses réserves. Eh bien, si, les Allemands y ont cru. Et donc, ils pouvaient à la fois avoir des armées importantes sur la frontière orientale et sur leur frontière occidentale. Deuxième erreur des états-majors, ils ne s'étaient pas rendus compte de la puissance des armes nouvelles, c'est-à-dire les mitrailleuses et l'artillerie.
Alors qu'il y avait un précédent, la guerre des Boers.
Bien sûr.
Il y avait déjà une mise en place de la connaissance de
ça. Ils auraient pu le savoir, mais comme souvent dans ce genre de choses, on ne croit que quand on le voit. Or, quel était le plan français ? Oh, il était simple. Hein ? On allait attaquer et attaquer. Pas se défendre, attaquer.
C'est l'attaque. À l'avant.
En avant, en Lorraine. Oui, c'était très bon. On repassait par la Lorraine allemande, c'est-à-dire la Lorraine occupée. Hein, du point de vue symbolique, c'était extraordinaire. Dès les premiers jours, on allait libérer l'Alsace et la Lorraine. Disons au passage qu'il y avait longtemps qu'en France, on ne pensait pas à reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Comment moi, je suis lorrain d'origine, mais que voulez-vous qu'on y fasse, hein? Les Français étaient 40 millions à peine, les Allemands plus de 60 millions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et donc, la question d'Alsace-Lorraine, justement, c'est très intéressant parce que la question d'Alsace-Lorraine n'était pas morte. On regrettait, et évidemment, que les Alsaciens et les Lorrains ne soient plus français, mais elle était morte politiquement. Jamais la France n'aurait attaqué l'Allemagne pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Eh bien, brusquement, la guerre commence. Alors, évidemment, la guerre commence, on dit, ben, on va reprendre l'Alsace et la Lorraine, et le plan français prévoyait effectivement d'attaquer par la Lorraine. Le plan échoue remarquablement. Il échoue pour une raison élémentaire, c'est que finalement, l'attaque, après qu'on ait préparé la bataille, si l'on veut, mais l'attaque se terminait par l'infanterie qui attaquait à la baïonnette. Alors, les baïonnettes, hein, contre les mitrailleuses et contre l'artillerie, les pertes ont été énormes. Sur les 1 400 000 jeunes Français qui sont tombés en 14, des centaines de milliers sont tombés dans les premières semaines de la guerre.
Pourriez me poser en deux jours, il y a eu
Il y a eu un peu plus long, parce que y compris la bataille de la Marne. Mais on pourrait poser la question, mais pourquoi le commandement faisait-il cela? D'abord, disons-le clairement, les Allemands n'ont pas fait beaucoup mieux. Ils ont eu aussi des pertes considérables au début de la guerre. Hein, par la suite, quand on a eu la guerre des tranchées, guerre terrible pour les hommes, mais qui a fait beaucoup moins de pertes, en quelque sorte, que les offensives. Alors, pourquoi les commandements faisaient ça? Est-ce qu'ils... Bon, ils n'étaient pas très malins. Excusez ce terme, mais il faut bien dire que ni du côté français, ni du côté allemand, on a eu de grands généraux. Hein, Joffre était bon, c'était pas un génie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, et du côté allemand, bon, non, ce n'était pas non plus très extraordinaire. Simplement, en dehors même de leur manque de qualité, il y a eu quelque chose de particulier. D'un côté comme de l'autre, on était persuadé, et dans le monde, enfin dans toute l'Europe, on était persuadé que si une guerre éclatait, cette guerre serait très brève.
Exact, tout le monde était parti pour une guerre brève.
Ah, absolument.
Ça devait se régler en quelques jours.
Oui, les optimistes étaient convaincus que la guerre se terminerait au bout d'un mois, 4 semaines. Les pessimistes, oh, ils pensaient qu'il y en aurait peut-être pour plusieurs mois. Hein. Mais alors, dans ces conditions, il fallait mettre le paquet dès le début. Donc, les pertes, même si elles étaient très lourdes, ce n'était que pour quelques jours. Et, dans la réalité, cela a duré plus de 4 ans. Hein. Alors, heureusement, les différentes armées auraient pratiquement disparu. Hein. Les pertes par la suite ont été moins lourdes au long des jours. Elles ont été terriblement lourdes lorsqu'il y avait une offensive. Lors de la bataille de la Somme, de la bataille de Verdun, etc., les pertes ont été effroyables. Mais les pertes au début ont été le résultat d'une erreur totale d'appréciation sur ce que serait cette guerre.
Parlez-nous de la cristallisation qui s'est faite au moment de la guerre des tranchées. Parce que dans l'esprit des gens de notre génération et des générations plus jeunes, on parle des tranchées, c'est une véritable cristallisation du conflit.
Absolument. À partir très rapidement, en gros, au bout de quelques mois, où les offensives, d'un côté comme de l'autre, avaient échoué, on s'est fortifié. Et fortifié, cela voulait dire qu'on a creusé une série de lignes de tranchées. Et que de la guerre de mouvement des premières semaines, on est passé à une guerre statique. Des tranchées qui étaient une sorte de, comment dirais-je, de fortification qui allait depuis la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Il n'y avait pas une seule ligne de tranchées, il y avait plusieurs lignes de tranchées, il y avait ce qu'on appelait les boyaux qui étaient, pour qu'ils ne soient pas pris en enfilade par le tir adverse qui n'était pas droite, qui permettait de relier entre eux les différentes lignes de tranchées. Et voilà, pendant, avec des périodes de plus grande intensité. Pendant 4 ans, les soldats allaient rester dans ces tranchées où les pertes ont été moindres, où la vie était extrêmement
dure.
Parce que l'été, ça allait bien, si je puis dire, hein, mais l'hiver était atroce.
Les gangrènes, ça pataugeait dans l'eau.
Oui, et puis la pluie, enfin, tout
ça. L'évacuation des blessés.
Et c'était effrayant d'un côté comme de l'autre. Hein, parce qu'évidemment, quand on étudie pendant très longtemps, quand on étudiait la guerre de 14, c'était la guerre du point de vue français. Mais en réalité, ce que l'on fait à notre époque, c'est d'essayer de faire une étude internationale et en son compte, évidemment, que les soldats ont autant souffert, ont été aussi patriotes, à vrai dire, d'un côté comme de l'autre. Alors, Il y a un détail que je voudrais ajouter à propos des soldats allemands. Je crois que c'est honnête de dire que les soldats allemands ont été aussi patriotes que les soldats français. Même si ça se passait en France, ils avaient l'impression de défendre leur pays comme les soldats français avaient l'impression de défendre le leur. Mais il y a un détail, ce sont ce que j'appellerais les atrocités du début de la guerre commises par les unités allemandes en Belgique et dans le nord de la France. Et cela, ce n'était pas du domaine du patriotisme. Qui est responsable ? Probablement le commandement. Ce n'est pas les soldats eux-mêmes qui ont décidé de... Mais il faut reconnaître que c'est un aspect qui, lui, ne peut pas être mis sur le compte du patriotisme. Ce n'est pas par... Alors, je sais bien quelle était l'explication allemande qui en était donnée. Une guerre, il faut la terminer le plus rapidement possible. Quel que soit... les moyens qu'on emploie. Ça sera finalement moins coûteux qu'une guerre longue. Mais malheureusement, non seulement ont été utilisés ces moyens atroces, bien souvent, et puis la guerre a tout de même été longue. Alors, ça enlève toute justification à l'emploi de ces méthodes.
Vous abordez presque la question que j'allais vous poser, c'est la grande question qui est toujours débattue encore aujourd'hui, de la responsabilité de la décision de la guerre. Parce que l'Allemagne s'en est défendue, en train de dire « c'est pas nous qui sommes totalement responsables », et il y a eu quand même une grande discussion toujours autour de cela.
Oui,
qui aujourd'hui, à mon avis, maintenant, on en a fait l'analyse.
Oui. Non, cette guerre, je l'ai dit tout à l'heure, cette guerre aurait pu ne pas avoir lieu. Mais elle a éclaté sur un incident. Qui est responsable ? Pourquoi ? En définitive, le grand responsable, c'est la Russie. C'est la Russie dans la mesure où elle est intervenue et qui a provoqué, en quelque sorte, l'enchaînement.
Alors, l'enchaînement des traités.
J'étais, il y a bien des années... j'étais à Moscou pour un colloque sur la Grande Guerre de 1900, sur la Grande Guerre. Et j'avais développé cette théorie de la responsabilité de la Russie dans l'enclenchement de la guerre. Et tout d'un coup, au fond de la salle, il y a quelqu'un qui s'est dressé, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait, parce qu'il parlait russe, mais on m'a traduit après, et j'ai su également que c'était un historien de l'armée russe. L'armée russe avait ses historiens. Et il m'apostrophait, d'après la traduction qu'on m'a donnée, en me disant « Que vouliez-vous qu'on fasse ? Est-ce qu'on allait laisser écraser la petite Serbie ?» Et effectivement, la responsabilité, c'est ça qui est peut-être le plus prodigieux. Il n'y a pas de responsabilité totale. Si je devais dire quel est le pays qui a provoqué l'enchaînement, c'est sans aucun doute l'Autriche-Hongrie, en attaquant la Serbie. Deuxièmement, c'est l'Allemagne, en acceptant de soutenir l'Autriche-Hongrie, ou plutôt en interdisant à l'Autriche-Hongrie d'intervenir. Troisièmement, c'est la Russie qui s'est portée au secours de la Serbie. Alors, qui est le plus responsable? C'est pas parce que... Bon, un historien a une nationalité. Quelquefois, on pourrait reprocher à cet historien de défendre son pays parce que, bon... la France n'a pas vraiment de responsabilité dans cette affaire. Elle a une responsabilité d'être alliée à la Russie. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais au moment des événements, la France n'a pas eu le choix. En fonction du plan Schlieffen, l'Allemagne a attaqué la France, il fallait se défendre. Et parmi les millions de soldats français, il n'y en avait aucun qui n'avait pas le sentiment qu'ils avaient à défendre leur pays. Quand je dis aucun, n'exagérons pas, il y a toujours des exceptions. Mais dans leur immense majorité, les soldats français ont eu simplement conscience qu'ils avaient à défendre leur pays. En revanche, il est évident que tant le gouvernement russe que le gouvernement austro-hongrois que le gouvernement allemand ont des responsabilités particulières dans l'événement.
Bon, comme vous êtes Laura, on va faire juste une petite parenthèse sur le mythe des provinces recouvrées, l'Alsace et la Lorraine, parce que là, on nous a quand même bercés pendant des années. Même moi, étant jeune, on ne m'a parlé que de l'Alsace et de la Lorraine. C'est un mythe, quand même.
Oui. Merci de rappeler que je suis Lorrain, mais Lorrain tellement loin. Car en fait, ma famille a opté pour la France en 71. Et donc, depuis 71,
vous êtes devenu français de l'intérieur.
J'étais parisien. Voilà. Encore que mes parents ne sont pas venus directement, mes ancêtres ne sont pas venus directement à Paris. Ils ont fait une étape par Reims, à vrai dire. Mais enfin, bon, cela étant, donc, je ne redis pas mes origines, mais enfin, il faut bien reconnaître qu'elles sont loin. Alors, en revanche... Est-ce que les Français sont partis pour l'Alsace-Lorraine? Avant de partir, on aurait demandé aux Français s'ils allaient se battre pour reconquérir l'Alsace et le nord de la Lorraine. Ils auraient levé les bras au ciel en disant « mais c'était une histoire folle ». Mais aussitôt la guerre commençait et il fallait trouver... une justification claire à cette guerre. Voilà. Et la guerre commencée, eh bien, on allait la faire pour l'Alsace et la Lorraine. Et c'est d'ailleurs ce qui explique certaines erreurs du plan. Le plan français devait... on a attaqué en Lorraine, mais on a attaqué aussi en Alsace du Sud. En Alsace du Sud pour... Les premiers jours de la guerre, avant que les Allemands ne nous refoulent, on avait pénétré, on a conquis Mulhouse pour quelques jours. Et alors, c'était donc l'Alsace qu'on libérait. Alors, à ce moment-là, on n'a pas libéré pour longtemps. Très rapidement, la contre-offensive allemande a rejeté les troupes françaises. Mais c'est vrai que dans le début de la guerre, la question d'Alsace-Lorraine était restée au cœur des Français. Simplement, bon, C'était une chose impossible. Mais si elle redevenait possible, automatiquement revenait l'idée qu'on allait reprendre l'Alsace et la Lorraine. Il y avait bien longtemps qu'on savait que c'était impossible. Mais brusquement, l'occasion s'en trouvait. Alors, évidemment, d'où les dessins, les portraits, l'Alsace que l'on va retrouver, etc. C'était la conséquence. C'est pas ce qui a provoqué la guerre. C'était la conséquence de ce que la guerre avait éclaté.
Écoutez, vous verrez dans l'ouvrage, alors il y a des entrées, écoutez, on ne peut pas toutes les aborder. Vous avez la guerre sous-marine, vous avez les occupations, les réfugiés, la situation des artistes, les sciences, les scientifiques. Vous avez plein de contributions extrêmement importantes et que moi j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas parce que je n'avais écouté que mes professeurs, mais comme quoi cette encyclopédie est plus qu'intéressante. Je voudrais, monsieur le professeur, que peut-être que, avant que vous mettiez votre conclusion, qu'on parle quand même de ce terrible traité de Versailles, parce que ça a été quand même la porte ouverte du second conflit.
Absolument.
Et qu'on a aujourd'hui encore le dépeçage de l'Autriche-Hongrie est aujourd'hui encore inscrit dans la géographie. Vous avez aujourd'hui 300 000 Hongrois en Ukraine, 350 000 dans l'ex-Yougoslavie, 2 500 000 Hongrois en Transylvanie, et ce sont quand même les Anglais et Clémenceau qui tenaient le stylo. Et à mon avis, ça ne pourra pas passer comme ça éternellement. Parlons maintenant du traité de Versailles.
Le traité de Versailles, vu avec l'éloignement du temps, on se dit que effectivement, il a été très largement, largement à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, qui elle a vraiment été une guerre mondiale. Alors, la question se pose, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Et je crois que le traité, il n'y a pas une négociation du traité de paix. Ce sont les alliés qui ont établi le traité et qui l'ont soumis ensuite, enfin ils ne l'ont pas soumis, ils l'ont imposé, imposé à l'Allemagne qui ne pouvait que l'accepter. Les Allemands cherchaient à discuter, mais ce que, bon, tout ça a été balayé. Alors, j'ai souvent réfléchi justement sur cette question, est-ce qu'on pouvait faire autrement? On aurait sûrement dû faire autrement, mais est-ce qu'on pouvait faire autrement, hein? Après, cette guerre effroyable, est-ce que l'on pouvait faire un traité qui ne soit pas un traité de vengeance? Et au fond, c'est ce qu'a été le traité de Versailles et les autres traités dits de la banlieue parisienne.
Trianon.
Ce furent des traités de vengeance. Et c'est sûr que c'était une mauvaise inspiration. Et en particulier, une des pires choses a été la disparition de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Mais, disons-le, les négociateurs du traité de, des traités de Versailles et de la banlieue parisienne n'y pouvaient rien. L'Autriche-Hongrie s'est littéralement désintégrée à la fin de la guerre. Et comme les populations d'Europe centrale et balkanique étaient plus ou moins mélangées, eh bien, en fonction des circonstances, il est resté, évidemment, des groupes extrêmement nombreux. Alors, disons-le tout de même, que dans la répartition des pays, les amis des alliés, les amis de la France en particulier, ont été favorisés par rapport aux autres. Alors, on n'aimait pas l'Autriche et pour cause, on n'aimait pas la Hongrie, on aimait bien la Roumanie, on aimait bien la future Yougoslavie, parce que c'était des amis. D'une façon générale, disons-le, le traité de Versailles n'est pas un traité qui prétend, même si c'est, s'il le disait, créer un monde nouveau, c'était un traité imposé par les vainqueurs. Et que voulez-vous, un pays qui... La guerre a été une chose particulièrement horrible pour la France. La France était un pays où la population stagnait. Hein. C'est-à-dire que même si les chiffres sont à peu près équivalents, les pertes pour la France étaient beaucoup plus horribles pour son destin que celles d'un autre pays. Et je dois dire que par moments, je me demande, maintenant ce n'est plus tout à fait vrai depuis un certain nombre d'années, mais pendant très longtemps, on peut se demander si la France s'était relevée de la Grande Guerre. Et cela, bien après la Seconde Guerre mondiale, la France était encore un pays qui avait tellement souffert de la Grande Guerre qu'elle ne pouvait pas, se relever. Alors, le traité de Versailles et les autres traités étaient sûrement injustes, mais pouvait-il en être autrement ?
Eh bien, je vais vous demander de nous amener une conclusion, si vous voulez bien.
Bien, si vous voulez, je peux conclure sur un point qui me paraît toujours essentiel. La France, au cours de son histoire, de sa longue histoire, a connu de très nombreuses guerres. Et de ces guerres, il est resté des témoignages divers, mais d'importance également diverse. Mais de la Grande Guerre, il est resté un témoignage qui, lui, est là, à vue humaine, est là pour toujours. C'est celui des monuments aux morts. Dans les 36 000 communes de France, sauf Paris d'ailleurs, de façon assez exceptionnelle, il y a un monument aux morts. Et à travers les générations, eh bien, la présence de ce monument aux morts, qui est le lieu normal de toute... les cérémonies nationales, les monuments aux morts sont là pour conserver le souvenir de ces centaines et centaines de milliers de jeunes Français qui sont battus alors pour leur pays, quelles que soient les considérations générales.
Monsieur le professeur, je vous remercie infiniment.